Radio PGDG.
Le son de ton lycée.
Bonjour, nous sommes la classe de seconde 3, le projet Culture et Médias. Nous allons vous présenter le journal du lycée Pierre-Gilles de Gênes.
Le premier thème, présenté par Léa, Héloïse, Thibault, Marine, Clara, Léa et Agathe, présente la liberté de la presse et évoque les journalistes politiques.
Le deuxième thème, présenté par Alice, Charlie, Alexis et Océane, traite de la culture nationale, plus précisément la mode.
Le troisième thème, présenté par Dorian, Nathan, Mathieu et Hugo, est le sport. Ils parleront du match de foot de France-Colombie du vendredi 23 mars 2018.
Le quatrième, mes sujets, David Lopé, Parcellia, Marie, Chloé et Emily portent sur le Saint-Patrick.
Bonjour chers auditeurs, l'enregistrement de ce journal lycéen clôt la semaine de la presse qui s'est déroulée du lundi 19 mars au vendredi 22 mars. Dans ce cadre, nous, élèves de seconde culture et médias, aborderons différents thèmes tout au long de l'émission. Nous aborderons des sujets internationaux. Nous commencerons par évoquer la liberté de la presse, puis nous rendrons compte de notre rencontre avec un réfugié politique. Ensuite, nous allons aborder des sujets nationaux sur les thèmes de la culture puis du sport.
La liberté de la presse est un principe fondamental qui repose sur la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Cette liberté permet à chacun de publier ses opinions dans un journal libre, par exemple, et est valable pour chaque personne. Le principe de la liberté de la presse date de la loi du 29 juillet 1881. Elle a subi des modifications, notamment en août 1986. Elle connaît ainsi certaines limites. Par exemple, pour une procédure judiciaire, il ne faut pas nuire à la personne mise en cause. Ou encore, il est interdit de diffuser des informations sur l'armée, les secrets de la défense nationale ou les travaux de commissions d'enquête parlementaire.
Malheureusement, cette liberté n'existe pas au sein de chaque pays. Contrairement aux pays d'Europe et d'Amérique du Nord, les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine subissent une censure de toute liberté d'expression. Pour plus de précisions, nous vous invitons à consulter la carte de Reporters sans frontières pour la liberté de l'information, la liberté de l'information dans le monde en 2017.
Ce jeudi 22 mars, nous avons rencontré Déo, un réfugié politique originaire du Congo. Il nous a confié ses difficultés pour s'exprimer dans son pays, ainsi que les dangers auxquels les journalistes sont confrontés. Originaire de Bukavu, petit village de l'est du Congo, Déo est un journaliste et reporter de guerre qui exerçait sa fonction au Congo depuis l'âge de 17 ans. Il a toujours exercé divers métiers. Journaliste, traducteur, il parle 7 langues dont le français qu'il maîtrise depuis l'âge de 13 ans. Conférencier, chargé de mission, correspondant de presse, formateur en journalisme, il se rend souvent dans les établissements scolaires pour partager son expérience.
Déo a ainsi évoqué la situation de son pays, le Congo, un pays possédant de nombreuses richesses telles que les diamants, l'ivoire et l'or. Il a regretté que son pays ne se développe pas davantage et il a insisté sur l'absence de liberté. Il a lui-même subi cette absence puisqu'il exerce le métier de journaliste. C'est en raison de ce métier qu'il a été contraint de quitter son pays pour devenir réfugié politique en France. Il s'est adressé à nous sans filtre, ni tabou, ni atténuation, ni exagération.
Nous avons été marqués par les conséquences de l'exercice du métier de journaliste sur son existence. En 2009, son frère, journaliste lui aussi, est assassiné. Plus tard, Déo reçoit des menaces de mort provenant du portable de son frère, volé par ses assassins. Pendant plusieurs mois, il ne peut plus exercer son métier ni faire de reportage. Une enquête est ouverte pour trouver la source des menaces, mais les autorités congolaises enterrent l'affaire, dissuadant toute tentative de remonter la piste. Déo obtient le prix de la Plume d'Or et part 10 jours en France pour la remise du prix. Il reçoit de nouvelles menaces par mail, lui disant que même en France, ils le trouveront. La France décide de le protéger. Il est logé à la maison des journalistes. Sa famille est exfiltrée au Rwanda en urgence pour être protégée. Déo est déjà connu en France en tant que reporter de guerre et journaliste au Congo, et de ce fait, il obtient le statut de réfugié en 3 jours. Le temps de faire toutes les démarches administratives, il a été séparé 3 ans de sa famille avant qu'elle ne le rejoigne en France. Aucun de ses diplômes n'est reconnu dans son pays d'adoption, à part l'équivalent du baccalauréat. Il peine à retrouver son emploi, mais aujourd'hui, il fait des traductions. Il fait aussi de nombreuses conférences.
Des anecdotes racontées lors de la rencontre sont particulièrement marquantes et perturbantes. La première anecdote concerne l'époque coloniale et le quota d'ivoire à récupérer sur les éléphants par les travailleurs congolais.
Ils devaient chacun donner un quota. Ça veut dire que le blanc lui disait « tu dois donner chaque semaine 40 kilos d'ivoire. Celui qui n'avait pas réuni, on lui coupait la main droite, ont violé sa femme devant lui, ont tué son fils aîné pour servir d'exemple à d'autres. Et dans ces conditions-là, donc, le roi est devenu l'homme le plus riche du monde.
Elle permet de prendre conscience de la cruauté des colons belges. La seconde anecdote est sa description du peuple des Pygmées comme le peuple le plus heureux du monde.
Ils n'ont pas besoin de couverture quand il fait froid. D'abord, il ne fait jamais froid. Ils savent comment ils se couvrent avec des feuilles et tout. Je les ai vus à la pêche, par exemple. Enfin, le moment un peu divertissement. Ils pêchent avec des feuilles. Au bord des ruisseaux, au bord des rivières, il y a des feuilles. Enfin, ça ressemble à des épinards et tout. Mais très écologique en plus. Ils prennent sous mes yeux, ils prennent des feuilles qu'ils froissent, qu'ils jettent dans l'eau. OK. Et tout, aux 5 mètres à la ronde, tous les poissons sont endormis, paralysés. Très écolo, il vient, le monsieur là, il vient, il prend 3 poissons qu'il va manger avec sa famille. Il s'en va griller son poisson. Une demi-heure après, les poissons se réveillent et continuent leur vie de poisson. Ils ne viendraient pas avec un filet pour manger et jeter comme on voit au supermarché. J'ai été à la chasse avec eux, mais pendant 3 jours, on piste un troupeau mais de 500 gazelles. Mais moi, je leur dis, mais pourquoi vous avez vos flèches empoisonnées? Vous êtes d'excellents tireurs. Pourquoi vous ne tirez pas? Il me dit, monsieur le journaliste, nous pistons ce troupeau, mais nous cherchons. Tu vois le gros mâle là avec des cornes? C'est celui-là que nous cherchons parce que nous savons que lui, il est vieux, il est devenu stérile, il ne sert plus à rien. Alors qu'ils peuvent, ils ont de la viande à profusion. Ou bien on ne peut pas tirer parce qu'on risque de blesser. Tu vois cette femme, cette femelle-là et tout, et tout. Et là, enceinte, elle va accoucher dans un mètre bas dans 3 jours, on ne peut pas la tuer. Je me dis, mais. Okay. Je vois, il y a un qui est blessé, là, mais une grosse coupure avec les épines. Après, je vais perdre le sens, c'est important aussi à savoir. C'était coupé là et tout, le sang coulait, je me dis, bah, cette fois je vais voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Près de monsieur, il y a un qui prend du miel, qui jette près d'une fourmilière. Il y a des milliers, des centaines de trous de fourmis, des grosses fourmis rouges, hein, de tropicales là et tout. Comment ça peut être?
Des fourmis
maillons. Maillons, voilà. Des grosses fourmis là et tout, impressionnantes et tout. Ils prennent, tu vois la plaie, hein, les blessures quand tu t'es coupé, les lèvres de la plaie qui réunissent. Ils prennent la grosse fourmi mania qu'il met là, elle est vorace. Elle pince et les mandibules se retrouvent dans la chair, quoi, tu vois. Ils coupent l'abdomen, la tête reste, point de suture. 2, 3, 4 fourmis. Et puis il prend la capucine, la fleur de la capucine, il frotte là-dessus. Il n'y a pas de meilleur antibiotique, il n'y a pas de meilleur antiseptique.
Elle nous ouvre les yeux sur la richesse de cette civilisation. La troisième anecdote concerne une femme mourante sur le point d'accoucher.
On traverse un village, le village de Sangué. On voit tout le village qui est massé au bord de la route. Je dis à mon chauffeur taxi, là, de moto, arrête, on s'arrête. En fait, le village entier, ils étaient en train de couper des branches, okay, pour fabriquer une civière, un brancard, pour pouvoir amener à l'hôpital de Nundo à 4 km. Une dame qui avait perdu les os, en fait, qui était en train de coucher, mais il n'y a pas d'infirmier dans le village. Donc on devait trouver un moyen de la... Et là, on voit un nuage de poussière. C'était un véhicule flambant neuf, comme toujours, de la mission des Nations Unies. Je demande à mon chauffeur de mettre la moto à travers de la route. La Jeep s'arrête de tout terrain. Flambant neuf, hein. Je crois, Pajero. Mitsubishi. Ça s'arrête. Il y a 2 personnes à bord. Il y a évidemment un noir au volant et un blanc à côté. Je sors ma carte de presse, je lui dis, écoutez, vous devez amener cette femme à l'hôpital. C'est à 4 km. Et en plus, c'est sur votre route. Le monsieur, je vous jure, il a sorti un grand papier. C'est écrit noir sur blanc. Personne qui ne travaille pas aux Nations Unies ne peut monter dans cette voiture. Il a démarré en train de vous dire que cette femme, elle est morte.
Elle dénonce le manque de compassion et d'humanité des puissants. Le quatrième témoignage est au sujet du décès du frère de Déo.
Les journalistes de la radio des Nations Unies, justement. Il revient de son boulot le 21 novembre, c'était un jeudi. Le soir, c'est une journaliste de radio très connue dans notre petite ville et tout. Il revient de son boulot et puis il s'était marié, enfin il vivait encore chez les parents. Mais là, 2 ou 3 mois avant, il venait de s'installer chez lui. Il revient de son boulot. Le voisin nous diront après que vers 20h30, ils ont entendu la voix de Didas, parce qu'il était très connu, qui discutait avec on ne sait qui pendant 45 minutes. Et puis on a entendu un coup de feu. Alors, et comme la sécurité, les armes qui circulent, il n'y a plus personne qui sort la nuit, C'est le matin, ceux qui vont au boulot le matin, qui ont découvert mon frère, il avait 34 ans, qui gisait dans son sang, lui avait tiré une balle de Kalachnikov ici, quelque chose. Il avait sur lui deux téléphones portables. Tenez-vous bien, Laure. Tu interpelles ton frère, il y a ton téléphone qui sonne, c'est Didas qui m'appelle. Il est dans son cercueil, à un mètre de nous. Allô, vous m'excuserez, mesdames. Allô, Déo, fils de pute, tu veux savoir ce qui est arrivé à ton frère? On va t'aider à le rejoindre rapidement. Comme ça vous. 20 minutes après, c'est un texto. On aura ta peau, espèce d'imbécile. Des choses pareilles. Tu t'occupes de ce qui ne te regarde pas. Parce que quand tu dis les choses du pays, pour un journaliste, c'est des choses qui ne te regardent pas. Chez nous, tu ne vas pas dire que M. François Fillon a utilisé sa femme comme métier fictif. Tu es mort. Non seulement tu es mort, mais c'est une grenade qu'on jette sur la maison, etc. Et imaginez l'horreur comme ça pendant 3 mois.
Et le cinquième concerne le décès de son meilleur ami.
Il y a une vieille maman qui s'appelle Alphonsine. C'est la meilleure amie de ma mère. Je ne sais pas s'il est toujours vivante. Si elle est vivante, elle doit avoir plus de 80 ans aujourd'hui. Elle va toujours à l'église avec ma mère et tout. Ça veut dire catholique et tout. Et cette maman, elle s'appelle Antoinette, pardon. Son fils, Alphonse, c'était mon meilleur ami. Je dis bien, c'était mon meilleur ami. Et un journaliste, on est parti au front ensemble, un reportage de guerre. Évidemment, quand il y a la guerre, il y a tout le monde qui se disperse. 10 ans après, quand ça se calme un peu, les gens commencent à rentrer et tout. La maman Antoinette, elle est convaincue que son fils Alphonse reviendra un jour. Je vous jure, ça fait 20 ans, je n'ai jamais eu le courage de lui dire que j'ai enterré Alphonse derrière sa maison. On sortait pour le reportage, une balle l'a pris, on l'a enterré et nous on a continué. Parce que si je lui dis ça, elle est morte, quoi, crise cardiaque. Mais à d'autres, enfin j'ai fait dans mes reportages, j'ai cité Alphonse sans dire son vrai nom. J'aimerais pas que cela arrive à cet moment.
Ce sont deux moments très émouvants, mais aussi très effrayants. L'attitude de Déo envers la mère de son ami témoigne de son humanité.
Les paroles crues et réalistes de Déo, telles que ses descriptions des corps éventrés, des femmes et des enfants violés, etc., ne nous ont pas laissé de marbre et nous ont fait prendre conscience de notre chance de vivre dans un pays où la liberté d'expression et plus précisément la liberté de la presse existe. Nos camarades qui vont vous présenter les thèmes suivants en auront d'ailleurs besoin. Nous tenons à remercier une fois de plus Déo pour son intervention, ainsi que vous qui nous avez écoutés.
La Minute Culture.
Bonjour à tous, nous allons vous parler de la Fashion Week, des mannequins et leurs conditions de vie.
Nous sommes en compagnie de Charlie, un journaliste du Figaro spécialisé dans le milieu de la mode.
La Paris Fashion Week, aussi appelée la Semaine de la Mode à Paris, est une célèbre semaine de défilés qui, sous la forme actuelle, a lieu tous les 6 mois depuis 1973 à Paris, en France, avec des événements consacrés à la haute couture, d'autres consacrés au prêt-à-porter ou à la mode masculine, à chaque fois printemps-été et automne-hiver.
Nous accueillons aujourd'hui une organisatrice de la Fashion Week, Alice.
Au programme de la Fashion Week, 79 défilés et plus de 30 présentations. La Fashion Week commence le 27 février et finit le 6 mars. Le 22 mars 2018 a eu lieu un défilé Chanel nommé un conte d'automne. Hier, sous la nef d'un grand palais transformé en sous-bois, les mannequins foulaient un parterre de feuilles et de mousse. Chaque défilé Chanel est un événement. De la haute couture au prêt-à-porter, en passant par les lignes croisières et celles rendant hommage au métier d'art. Karl Lagerfeld, depuis sa nomination en 1983, met en scène chacune des collections qu'il a imaginées pour la maison de la rue Cambon, avec face. Après la polémique autour d'un de ses défilés organisés ce mardi, Chanel a annoncé son intention de reboiser la forêt du Perche. Il s'engage à replanter 100 arbres.
Voici maintenant Alexis, un journaliste numérique, qui va nous parler des conditions de vie des mannequins.
Voici le témoignage d'une mannequin. Sydney Gaston nous raconte qu'au travail, les peaux sont rares. Pendant la Fashion Week de Londres en 2016, elle a été prise de vertige lors d'une présentation immobile de 90 minutes. Elle est descendue de la scène pour dire qu'elle risquait de s'évanouir si elle continuait. Une fille était en train de vomir à 1 mètre d'elle. La directrice de casting lui a dit de remonter sur scène, sinon elle ne serait pas payée. Sydney n'a pas été payée. De nombreux mannequins interrogés par Modèle.com signalent aussi des traitements dégradants et des abus sexuels. L'âge, les mensurations et la couleur de peau font partie des critères qui déterminent si un mannequin correspond à l'image de la marque pour laquelle l'agence de casting opère les sélections. Nous accueillons une ancienne mannequin qui va nous parler de son expérience. Victoire.
La veille d'un défilé, les mannequins ne prennent pas de repas. Sur de nombreux défilés de mode, l'extrême minceur des modèles choque le public.
Comment êtes-vous devenue mannequin ?
Tout a commencé quand je faisais du shopping avec ma mère dans le Marais, l'été de mon bac, alors que je me préparais à passer le concours de Sciences Po Paris. Un homme est venu me voir et m'a dit que j'étais la nouvelle Claudia Schiffer. Il était agent chez Elite, une des plus grandes agences de mannequins au monde. Il m'a alors demandé de le contacter suite à ma réflexion sur le métier de mannequin.
Et comment êtes-vous rentrée dans cette agence ?
J'ai dû perdre du poids pour ensuite être prise dans cette agence alors que j'étais déjà assez maigre de base.
Quelle était votre alimentation à ce moment ?
On ne se nourrit presque pas. Il faut adopter un régime en mangeant une pomme, matin, midi et soir.
Pourquoi vous n'êtes plus mannequin à l'heure actuelle ?
Je ne suis plus mannequin parce que j'ai sombré dans l'anorexie, puis par la suite dans la boulimie, et ça a beaucoup affecté ma mère. J'ai alors repris mes études et repris du poids. Suite à cette histoire, j'ai écrit un livre appelé « Jamais assez maigre ». Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter mon témoignage sur le site leplusnouvelops.com mannequin, j'ai sombré dans l'anorexie.
Vous retrouverez le lien sur le site internet du lycée.
Bonjour, bienvenue sur la radio PGDG. Aujourd'hui, nous allons évoquer le match de l'équipe de France contre la Colombie dans le cadre d'un match amical. Pour parler de ce match, nous accueillons le sélectionneur de cette équipe de France, Didier Deschamps, ainsi que le capitaine de cette équipe, Hugo Lloris.
Bonjour, je suis très heureux d'être en votre compagnie pour parler de ce match.
Bonjour, je suis ravi également.
Nous rappelons à nos auditeurs que ce match aura lieu ce soir à Paris au Stade Saint-Denis à 21h. La première question est pour vous, monsieur Deschamps. Ces rendez-vous de mars sont importants pour l'avenir mondial de certains de vos joueurs. Comment le sélectionneur place-t-il le curseur entre intérêt individuel et collectif ?
Il n'y a pas de curseur, c'est le collectif qui prime, toujours. Ce n'est pas un examen de passage pour qui que ce soit. Certains ne sont pas là par choix ou soit en raison de blessures. Mais ceux qui sont présents ont toute ma confiance. Ils ont la possibilité de s'exprimer avec l'équipe de France et à eux de jouer la meilleure partition possible à travers. Je le répète, le collectif.
Très bien, merci monsieur Deschamps. Hugo, pensez-vous que pensez-vous de l'effectif de cette équipe et pensez-vous que vous pouvez aller loin durant le mondial 2018 ?
Notre équipe est jeune, mais avec beaucoup de qualité et un énorme potentiel. On va essayer d'appuyer sur ce qui a été fait au Brésil et à l'Euro. On sait qu'il y a beaucoup d'attentes autour de nous. On a les épaules assez larges pour être confrontés à cette situation. On est bien concentré sur notre objectif. On a toutes nos chances avec le bon état d'esprit. Maintenant, on sait très bien que dans le foot, il n'y a rien d'écrit d'avance.
Pour continuer cette interview, nous allons accueillir Dorian, un supporter de l'équipe adverse des Français ce soir, la Colombie. Bonjour à vous, Dorian.
Bonjour, très heureux d'être ici.
Dorian, l'équipe de France semble être favorite pour ce soir. Pensez-vous que les Colombiens peuvent créer l'exploit ?
Oui, bien évidemment. Nous avons beaucoup de joueurs en forme, comme par exemple Radamel Falcao, James Rodriguez ou encore Luis Muriel. Nous sommes sur une bonne dynamique et nous sommes capables de vaincre cette équipe de France.
Monsieur Deschamps, voulez-vous répondre au propos de notre invité ?
La Colombie s'appuie sur des joueurs d'expérience avec une épine dorsale composée par David Ospina, Davidson Sanchez, James Rodriguez et Radamel Falcao. Cuadrado n'est pas là cette fois, ce n'est pas rien. Et comme toutes les équipes sud-américaines, elle propose beaucoup d'agressivité défensive, mais possède également un potentiel offensif très important. C'est bien d'affronter une telle formation avant le Mondial et le Pérou qui sera dans notre groupe.
Eh bien, merci à vous d'être venu nous donner votre point de vue. Retrouverez-nous bientôt avec d'autres invités pour de multiples analyses. Au revoir.
Au revoir.
Now I'm going to take you far away from here, in Ireland. More precisely, you are going to talk about a very important tradition, St. Patrick. With me, Celia, the historian, Chloe, a barwoman, and Mary, a traveler. Celia, tell us more about the history of this tradition.
Hello, Honor. Both in 412 after Jesus Christ, he heard God's voice who encouraged him to escape after being kidnapped by pirates. He becomes a priest, then a bishop. It's in 432 during his pilgrimage that he evangelizes the whole Ireland. He changes his name and becomes Patrick. We can easily recognize him with his clover and the green color. So on St. Patrick's Day, every Irish goes to pubs, dress up and celebrate during the weekend.
If it's true, Chloe, you own a pub called the Leprechaun. Do you sell more on St. Patrick's Day? If you don't mind me asking.
Well, on that day my annual revenue has a 25% raise, which is the highest of the year.
You met in your pub, didn't you, Mary?
Yes, that's true. During the celebration, I meet many people because it is a dynamic city and people are very friendly and welcoming.
Is it the first time?
No, I come back there every year because it is a special place for me.
What do you do exactly?
We drink a lot, we dance, we sing well, we have a lot of fun.
Would you recommend it to people who are listening to us?
Yes, it's really amazing.
So you and Mary, please book your tickets quickly if you want to join us next year.
Bye.
Bye.
Bye guys. Bye. Nous vous remercions d'avoir écouté ce journal national. Nous espérons vous retrouver prochainement sur les ondes de la radio PJDG.
Radio PJDG.
Le son de ton lycée.